écoutez Radio France Internationale et vous avez bien raison, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel lors d'un nouveau journal.
Stéphane Jeunesse.
Bonsoir à toutes et à tous, et ce journal évidemment consacré en grande partie à la situation au Proche-Orient, puisque le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été tué ce vendredi par des frappes israéliennes sur Beyrouth, c'est désormais confirmé par le mouvement. Les Occidentaux craignent un embrasement régional encore plus intense. L'Iran notamment avertit que cet assassinat du chef du Hezbollah entraînera la destruction d'Israël. Fin de citation. Réaction également de Joe Biden et de Kamala Harris, les États-Unis qui apportent leur soutien à l'État hébreu. Au sommaire également l'Argentine qui condamne un militaire et un policier dans le procès Puente Doce pour des crimes de la dictature. Et puis le nouveau ministre français de la Justice, Didier Migaud, favorable à l'inscription de la notion de consentement dans la définition juridique du viol, un combat mené depuis des années par des associations. C'est donc la principale information de ce samedi, la mort d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. Elle a d'abord été annoncée par l'armée israélienne ce matin, puis confirmée par le Hezbollah un peu plus tard dans la journée. Le mouvement explique que son chef a bien été tué dans une série de bombardements ce vendredi soir sur la ville de Beyrouth. Des frappes massives dans le quartier où se trouvait, selon Israël, le QG du mouvement chiite libanais. On retrouve notre envoyé spécial à Beyrouth, Abla Jounaidi. Et Abla, quelle est l'atmosphère dans la capitale ?
La ville est en état de choc, de sidération après cette confirmation de la mort de Hassan Nasrallah. L'ambiance dans les rues a changé du tout au tout. Les commerces, les restaurants ont fermé leurs rideaux un peu partout. Il y a beaucoup moins de voitures qui circulent, comme si la ville s'était vidée de ses habitants. On croise souvent des voitures avec des familles entassées, avec leurs effets personnels qui fuient la région. Le quartier touristique d'Ashrafieh est plongé dans un silence inhabituel. Et on sent une certaine tension aussi, avec un déploiement armé plus important que ces derniers jours. On a vu des hommes de l'armée et des services de renseignement positionnés au pied de la Maison Jaune, un bâtiment qui symbolise l'ancienne ligne de démarcation entre quartiers chrétiens et musulmans pendant la guerre civile. On est là tout près des ambassades aussi. Au loin, on a pu entendre aussi des rafales d'armes automatiques sans qu'on puisse déterminer d'où elles venaient. Il y a la peur d'un embrasement ici, d'autant plus qu'Israël a juré d'intensifier ses frappes et de tuer aussi le successeur qui serait désigné à Hassan Nasrallah.
Abla Jounaidi en ligne de Beyrouth avec les moyens techniques de Jad El Khoury pour RFI. Alors plusieurs réactions évidemment après l'annonce de la mort d'Hassan Nasrallah. D'abord celle d'Israël, puisque Benjamin Netanyahou a pris la parole il y a une heure, le Premier ministre israélien qui affirme qu'Israël, je cite, a réglé ses comptes avec le Hezbollah, que le pays se trouve à un tournant historique après l'élimination d'Hassan Nasrallah. Benjamin Netanyahou qui explique aussi que cela fait avancer le retour des otages de Gaza, fin de citation. Réaction également des États-Unis, la vice-présidente américaine Kamala Harris a qualifié Hassan Nasrallah de terroriste avec du sang américain sur les mains. Son assassinat est une mesure de justice pour ses nombreuses victimes, dont des milliers de civils américains, israéliens et libanais. Voilà ce qui est expliqué via un communiqué de Joe Biden. Washington qui par ailleurs a ordonné ce samedi l'évacuation des familles des diplomates américains au Liban. La France, elle, demande à Israël de cesser de frapper le Liban et s'oppose à une opération terrestre. Au Liban, où 3 jours de deuil national ont été décrétés, 5 jours en Iran, et on réagit en effet dans la région puisque le chef des rebelles houthis au Yémen affirme que la mort de Hassan Nasrallah ne serait pas vaine. Ils affirment d'ailleurs ce soir avoir visé l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv en Israël avec un missile, et les autorités syriennes condamnent une agression méprisable. Et sans être exhaustif, le vice-président iranien avertit que cet assassinat du chef du Hezbollah entraînera la destruction d'Israël. Et en marge de cette actualité, ce coup dur pour l'économie israélienne, puisque pour la première fois, l'agence de notation Moody's a abaissé de 2 crans la note de l'État hébreu. Raison invoquée, le risque géopolitique trop grand provoqué par la guerre à Gaza et l'escalade de ces violences au Liban, Alexis Bédu.
L'abaissement de la note d'Israël était attendu, mais pas à ce point. 2 crans de moins, assorti d'une perspective négative, ce qui signifie que Moody's pourrait très prochainement décider de baisser encore un peu plus cette note. Selon l'agence, le risque géopolitique pourrait avoir des conséquences négatives importantes pour la solvabilité d'Israël à court et long terme. Moody's fait directement le lien entre l'éloignement des chances d'un cessez-le-feu et cette dégradation de la note. Elle critique sévèrement le gouvernement israélien, je cite, « pas assez assez efficace pour prévenir les dommages aux indices de crédit du pays. Retard dans les mesures d'économie, faible croissance et dépenses importantes, l'agence s'attend à un déficit budgétaire d'environ 6% l'année prochaine, au-delà de ce qui avait été annoncé par le ministre des Finances. Conséquence, l'État d'Israël, qui paie déjà des taux d'intérêt beaucoup plus élevés qu'il ne le faisait il y a quelques mois, devra souscrire des prêts encore plus coûteux. Le comptable en chef du ministère des Finances, Yali Rothenberg, dénonce une décision excessive et injustifiée. Il assure qu'Israël sera en mesure, je cite, de gérer avec succès les conséquences économiques de la guerre.
Une précision d'Alexis Bédu du service économie de RFI. Voilà ce que l'on peut vous dire à l'heure où l'on se parle sur la situation au Proche-Orient. On y revient évidemment dans nos prochaines éditions d'information et en temps réel sur notre site rfi.fr. RFI 17h06 à Buenos Aires, où la justice argentine a rendu son verdict hier dans le procès Puente Doce. Deux condamnations, trois acquittements, cinq anciens policiers et militaires au total qui étaient jugés pour privation illégale de liberté, torture et meurtre sur un total de 185 victimes passées par le centre de détention clandestin Puente Doce pendant la dictature civilo-militaire entre 1976 et 1983. Notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience, était à l'audience.
Où que vous alliez, nous irons vous chercher, chantent les proches des victimes passées par le centre de détention clandestin Puente Doce, quand les trois juges arrivent dans la salle d'audience et commencent la lecture du verdict. Le tribunal condamne l'ex-policier Néstor Ciaramella à la réclusion à perpétuité et le militaire à la retraite Enrique Miguel Del Pino à 25 ans de prison, sous les applaudissements des proches de disparus, qui s'évanouit cependant avec la suite du verdict. Faute d'avoir pu établir avec certitude leur implication, les trois juges acquittent les trois autres accusés de tous les chefs d'accusation. À la sortie du tribunal, Pablo Chanto, avocat de proches de victimes, fait part de son incompréhension.
Ce qui domine, c'est la colère. Ces acquittements sont inexplicables, car la justice avait déjà établi que ce bâtiment était un centre de détention clandestin, qu'il n'y avait pas d'autres activités. Si ces policiers travaillaient là-bas, qui faisait-ils ?
Les plaignants pourront faire appel une fois que le tribunal aura exposé les motifs de sa décision le 26 novembre prochain. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Aux États-Unis, au moins 44 personnes sont mortes après le passage de l'ouragan Helene. Des millions de personnes sont toujours sans électricité dans le sud-est du pays. Les services météo américains avertissent qu'un barrage situé dans l'est du Tennessee était sur le point de céder. Il demande aux habitants en aval de se déplacer immédiatement vers un terrain plus élevé. Il dit être favorable à l'intégration de la notion de consentement dans la définition du viol en droit français. Le nouveau ministre de la Justice, Didier Migaud, l'a dit hier en plein procès. Des viols de Mazan, Dominique Pellicot et 50 co-accusés sont jugés pour avoir violé Dominique Pellicot, drogué par son mari pendant 10 ans. Combat de l'inscription du consentement dans la loi que mènent depuis plusieurs années les associations qui jugent la loi actuelle trop restrictive. L'avocate pénaliste Anne Bouillon, spécialiste du droit des femmes, pense qu'il faut en effet faire évoluer cette loi, mais elle explique que la question est très complexe.
Comprenez que si on fait du consentement la seule variable d'ajustement du sexe légal ou du sexe illégal, alors ça fait peser l'entièreté de la responsabilité de l'infraction sur la victime. Autrement dit, il suffirait que l'auteur fasse la démonstration que la victime a donné un consentement pour qu'il soit exonéré. Mais on sait bien que ça ne se passe pas comme ça. Imaginons par exemple que je consente à ce que quelqu'un me coupe le bras, je pourrais formuler un consentement tout à fait express et pour autant, ça resterait un acte illégal. Ce que je veux dire, c'est que ce sont les actes de l'auteur qui l'engagent sur le plan pénal. C'est parce que l'auteur des faits aura mobilisé des moyens coercitifs que sont la contrainte, la violence, la menace et les surprises, et qu'il aura eu la conscience d'outrepasser le consentement de la victime, qu'il engage sa responsabilité pénale. Donc, vous comprenez, si on dit simplement tout acte sexuel non consenti est un viol, alors on fait l'économie de l'étude de l'attitude de l'auteur. Et ça, évidemment, c'est pas possible.
Des propos recueillis par Laurence Théo pour RFI. Un mot de l'actualité sportive avant de refermer ce journal avec la suite de la 6e journée de Ligue 1. C'est du football, évidemment. En ce moment, Monaco reçoit Montpellier. Ça joue depuis 48 minutes. Un but partout. Un peu plus tôt dans l'après-midi, Lens et Nice se sont quittés sur un nul, 0-0. Et puis Lille s'est imposée au Havre, 3-0. C'est donc ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. 22h10 ici à Paris.